Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Les GAFAM licencient à tour de bras, les États-Unis bannissent TikTok, Apple présente des nouveautés et on a aussi les dangers de l'IA. C'est tout de suite sur le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 497. Nous sommes en janvier 2023, je suis Patrick Béja, on a un beau programme. Et surtout, on a de beaux co-animateurs. Est-ce que vous les entendez? C'est ça qui est important aujourd'hui. Bonjour, Siegfried, Captain Web.
Salut, comment ça va? J'allais te faire la blague de Paparu pour te faire croire que ça ne marchait pas.
Ah non mais alors ça aurait été
quelle horreur
cruelle. Et on a aussi Julien Lausson. Comment vas-tu, Julien?
Salut, Patrick. Ben, ça va bien. Salut à la commu.
Salut, salut. Alors, Siegfried, bien sûr, est-ce qu'on peut dire le capitaine du navire du Captain Web, le podcast tech?
On peut dire ce que tu veux, écoute. Le plus respecté, je n'irai pas jusque-là, mais bon.
Et Julien Lausson de Numérama, qui est le plus grand expert légal de la sphère de la presse française dans la tech.
Rien que ça.
Rien que ça, voilà. On va dire ça comme ça. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. C'est des retrouvailles un petit peu particulières, puisque les auditeurs les plus assidus se souviendront d'un épisode maudit en décembre où je vous avais invité et nous avions fait une émission formidable, incroyable. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait usage de mon droit de censure pour vous supprimer complètement de l'épisode. C'était fou.
On a disparu intégralement.
J'ai fait comme ça, j'ai fait snap. I am
snap de Thanos.
Inevitable, c'est ça. Et deux tiers du podcast ont disparu. Mais vous m'avez fait la gentillesse de revenir pour vous expliquer. Je ne sais pas si, je crois que j'ai expliqué aux auditeurs, mais je ne sais plus si je vous avais expliqué à vous deux ce qui s'est passé. Je vous avais dit ou pas pourquoi vous n'étiez pas dans l'enregistrement?
Écoute, je ne sais plus, honnêtement.
D'accord.
Moi, je crois que tu nous avais fait répéter un mot-clé pour voir si tu nous entendais bien. Et en fait, on a réinterprété ton son comme une deuxième demande.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, maintenant, ça fait quand même plus de 15 ans que je fais du podcast, pour éviter ce genre de problème, je teste l'enregistrement à chaque enregistrement. À chaque fois, une minute avant de lancer l'enregistrement, enfin juste avant, je fais un enregistrement test que je repasse ensuite pour l'écouter. Dans cet enregistrement, je dis « Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me dire bonjour ?» Et les gens disent bonjour, puis je repasse cet enregistrement. Sauf que, pour des questions, d'ailleurs je devrais supprimer ça, mais les gens peuvent entendre l'enregistrement quand ils repassent. Et à ce moment, je crois que c'était toi, Julien, tu m'as entendu dire « Est-ce que vous pouvez dire bonjour ?» Et tu m'as dit en live pendant que je repassais l'enregistrement, bonjour. Donc j'ai cru que ça avait enregistré puisque tu m'as dit bonjour. J'ai dit ok, c'est bon. En plus, on n'était pas sur Twitch parce que les enfants étaient malades. Et donc, on n'avait pas de copie de sauvegarde. Donc,
là, c'est le drame.
C'est le drame. C'était heureusement, Super Fanny est arrivée. Elle a dit mais t'inquiète pas, je vais te faire un montage incroyable. Et ça va même pas. Les gens vont même pas se rendre compte que tu avais eu des invités. C'est pas moi le Thanos, le snap du Thanos en fait. C'est Fanny.
C'est vrai que c'était un challenge incroyable, quoi. Arriver à refaire un épisode et
construire quelque bravo. Chose ouais, sans, ouais. sans nous, bravo.
C'était vraiment. Mais vous savez que je pars dans les histoires de podcast, mais le deuxième ou troisième épisode d'Azeroth.fr que j'ai enregistré, c'était en 2006. On avait reçu, je peux en parler maintenant. On avait reçu un des community managers de Blizzard. On parlait du jeu World of Warcraft. Il était venu et deux jours plus tard, on a enregistré un épisode entier, deux heures, on parlait non-stop, voilà. Deux jours plus tard, il m'envoie un mail en me disant « Écoute, je parlais à ma boss et elle aime pas trop que je fasse ce genre de truc, je suis emmerdé, qu'est-ce qu'on peut faire un truc ?» Je lui dis « Écoute, pas de problème, je vais gérer. Et je l'ai supprimé de l'épisode. Mais supprimé. Et on avait conversations, enfin comme vous et moi le mois dernier, mais effacé complètement et personne s'en est jamais aperçu.
Attends, t'avais un multipiste au moins ?
Non, même pas. Ah ouais, même pas. Là encore, on avait un multipiste, mais
Le montage de l'enfer, quoi.
Ah ouais. Bah j'ai passé une semaine, mais au final, et tu sais, je me suis rendu compte, c'était l'un des moments où je me suis dit, mais ce que peut faire la technologie, c'est incroyable.
Je fais disparaître les gens intégralement. Ils n'ont jamais existé.
C'est ça, exactement. Mais donc, je suis hyper heureux et reconnaissant que vous ayez accepté de venir, encore une fois, malgré cet outrage de votre disparition. Là, vous êtes revenu. Hein, les Avengers se sont assemblés. Ils ont réussi à ramener les pierres d'infinité. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être là. Accessoirement, les enfants sont encore malades. Il y a un pattern. Hein.
Ah.
Mais, je me suis dit, c'est fini les conneries, on est quand même sur Twitch, parce que si jamais l'enregistrement merde, ben au moins on aura Twitch en backup. Donc, c'est pour le boulot.
Ça nous est arrivé à tous, hein. C'est pratique d'avoir ça.
Exactement. Donc, j'ai dit aux enfants, écoutez, ça suffit, on laisse papa travailler maintenant. Donc, s'il y a des enfants qui débarquent dans la... J'ai pas dit ça, hein, bien sûr, ma femme s'en occupe, ils sont trop petits, mais s'ils débarquent pendant l'émission, vous saurez pourquoi. Donc... Disparition, Snap et Thanos mis à part, il y a quand même les patriotes à remercier. C'est Inksable, Simon Novice, Diternet, Mobs 101, The Hawk et Charlie Beck. Merci à vous tous d'avoir rejoint l'incroyable équipe des patriotes qui soutiennent l'émission. Et merci aux producteurs Stéphane Lioret et Lancelot Davizard. Nous vous aimons d'amour. C'est grâce à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission que nous pouvons... l'affaire et que nous pouvons, comment dire, pallier aux petits problèmes et défauts de Patrick pour avoir des émissions tout de même toutes les semaines depuis presque 500 épisodes. Pas tout à fait, parce qu'on faisait toutes les deux semaines au début. Toutes les semaines, ça n'est que depuis 2018. Donc, mais bon, bientôt 500 épisodes. Donc, merci à vous tous de nous permettre d'exister. Et on se lance tout de suite dans les gros sujets à retenir de l'émission. On va commencer avec un sujet qui, partout dans le monde, provoque la joie, le bonheur, l'extase. Les GAFAM licenciés, évidemment, tout le monde est très mécontent. Alors, c'est d'une ampleur quand même hyper importante. Hein. On parle de chaque GAFAM qui licencie environ 10 à 12 000, parfois plus, personnes. Et tous l'ont annoncé en l'espace de quelques semaines, quelques mois parfois, parce qu'il y avait déjà des informations. Je crois que Amazon licencie quelque chose comme 18 000 personnes. Apple est dans une situation particulière dont on va parler dans un instant. Mais alors, évidemment, c'est un mouvement qui est dû à la récession, qui est général, qui est mondial, ça touche pas que des emplois aux États-Unis, mais ça touche des emplois dans le monde entier. Et il est clair que le commentaire se fait de lui-même. C'est jamais cool de se faire licencier. C'est jamais cool qu'il y ait des licenciements. C'est même, terrible. Et on pourrait commencer à parler du fait que ces sociétés font des profits monumentaux, indécents même, diraient certains, et que dans le même temps, ils licencient. On ne peut pas rester indifférent face à la chose, en particulier pour les licenciements aux États-Unis. Rappelons qu'aux États-Unis, même si c'est forcément un drame de se faire licencier en Europe, aux États-Unis, ça veut aussi dire qu'on n'a pas... on n'a plus d'assurance santé, on n'a généralement pas de chômage. Alors, les sociétés vont fournir... Genre, quand ils fournissent 4 mois, c'est généreux de leur part. Donc, vraiment, aux États-Unis, c'est un énorme chamboulement et quelque chose de particulièrement lourd à porter. Et encore une fois, c'est lourd partout, mais aux États-Unis, encore plus. Donc ça, je ne sais pas si vous voulez contester cette idée, mais je ne sais pas s'il y a une grande discussion à avoir sur
oui,
cet
non,
aspect.
Effectivement. Oui, voilà, je ne pense pas qu'on va trop aller dans l'autre sens là-dessus.
Captain, tu pourrais hein, te faire un petit peu. Non, c'est bien. Enfin,
oui, l'avocat du diable, mais bon, c'est là, ça. Sur le coup, je ouais, pense que dire difficile. Que c'est cool de se faire licencier, à part peut-être si tu bosses chez Twitter, auquel cas, tu peux. Ça peut être. Tu peux clairement. Ouais, l'un dans l'autre, finalement, c'est peut-être pas si mal.
Tu sais que même chez Twitter, les 3 mois de severance, donc de salaire qu'ils devaient avoir après leur renvoi, finalement, ils ont été payés qu'un mois. Il y a des procès en cours parce que. Donc, même chez Twitter, tu dis, mais.
Surprise.
Bon, ouais, la belle surprise. Donc. Après, on peut discuter du fait que oui, c'est à cause de la récession, c'est parce qu'ils prévoient l'avenir, ils veulent réduire la voilure pour continuer à avoir de la croissance et avoir des revenus importants. Est-ce que ça se justifie économiquement tout ça ? Pour moi, c'est d'une part un débat compliqué, ensuite un débat sans fin, et ce n'est pas le sujet de l'émission. Mais il y a un truc qui touche à ça, qui me paraît particulièrement intéressant, c'est un aspect de cette discussion qui a été évoqué parfois par certains, mais souvent balayée assez vite comme non importante. Mais ça pose une question qui me paraît intéressante, c'est la question des emplois dans les années qui ont précédé. C'est-à-dire que depuis 2019 environ, les sociétés en question, les GAFAM, ont énormément engagé, mais énormément. C'était déjà des géants, hein. C'était déjà les GAFAM en 2019 et avant, donc ils étaient déjà les géants de la tech qu'on ne pouvait pas faire plier et qui étaient trop gros pour notre monde.
Mais surtout au moment de la pandémie, si je ne me trompe pas, en 2020, il y a eu,
exactement.
Il y a eu des gros, ils ont engagé beaucoup de personnes. Ouais.
Exactement, c'est-à-dire que Amazon et Meta, j'approximative un petit peu, mais Amazon et Meta ont doublé de taille. Alphabet et Microsoft ont augmenté de 50% environ, un petit peu plus de 50%. Donc on parle de sociétés qui, pour le cas de Microsoft par exemple, est passé de 120 000, depuis 2019, ils sont passés de 120 à 220 000. Il y a eu des acquisitions, bien sûr, entre-temps, donc c'est un peu plus que 50%. Mais il y a eu une augmentation du nombre d'employés qui est vraiment importante. Et dans le même temps, ce qu'on voit comme commentaire, c'est que Apple ne renvoie pas eux. Ils ne licencient pas. Et quand on s'intéresse un petit peu aux raisons de cette absence de licenciement, c'est qu'ils ont été beaucoup plus conservateurs, beaucoup plus prudents dans leurs embauches. Et ils n'ont eu une croissance du nombre d'employés qui n'était que de 20%. Et du coup, moi, ça me pose une question à laquelle je n'ai absolument pas de réponse. C'est qu'est-ce qui est le plus louable dans tout ça ? Qu'est-ce qui est le plus... parlons pas de morale même là-dedans, mais qu'est-ce qui est la meilleure situation sociétale et sociale et de ces sociétés dans tout ça, est-ce qu'il vaut mieux être Apple, avoir été conservateur, avoir été prudent et n'avoir engagé que 20% de plus, et du coup, ils n'ont pas créé autant d'emplois que les autres, ou alors avoir été Amazon, avoir engagé doubler la taille de la société, et puis ensuite en renvoyer 10, 20 000, ça veut dire qu'il reste quand même, je ne sais pas, je lance un chiffre au hasard, mais c'est ce genre de chiffre, on est genre, ils ont quand même un net de 50, 60, 70 000 employés en plus. Donc, ils ont créé de l'emploi, ils ont donné du travail à des gens, enfin, donné, ils ont engagé des gens. Et j'ai pas vraiment ça m'interpelle, quoi. Je fais pas, moi, comme les gens qui disent « Ah, ben, on s'en fout, ils ont engagé, c'est quand même des salauds de renvoyer, machin. » Oui, bien sûr, on l'a dit, c'est pas cool, c'est une situation compliquée. Mais ce qu'on veut de ces sociétés, de ces géants, le minimum, c'est qu'ils créent du travail économiquement, qu'ils créent du travail, qu'ils créent de l'emploi, qu'ils donnent des emplois. En plus, Amazon, pour des raisons totalement... des raisons totalement égoïstes, a augmenté le salaire minimum de ses employés les moins bien payés ces derniers temps. Donc, ils commencent à avoir un salaire correct pour ce... C'est beaucoup de manutention dans les entrepôts, hein, donc ce n'est pas non plus que des travaux de cadre.
Il y a aussi peut-être la peur des syndicats qui arrivent pour Amazon, qui arrivent derrière, parce que là, ils ont eu plusieurs syndicats qui ont essayé de se créer. Alors, je ne sais pas s'il y en a un qui a réussi à se créer, non, si je me souviens bien, dans un de leurs entrepôts.
Tout à fait, ouais. Et ils font du union busting. Enfin, je suis pas en train de dire « Oh, mais regardez comme ils sont gentils, ils ont créé des emplois », absolument pas. Mais dans cette équation, ils renvoient des gens, on le leur reproche, et c'est normal, je peux le comprendre, mais du coup, s'ils ont engagé 5 fois plus de monde dans les 3 ans qui ont précédé. Qu'est-ce qui est... De quoi on... Tu vois, je sais pas. Julien, toi, tu as la réponse.
Si, non, mais si tu mets de côté la morale et qu'on s'intéresse simplement voilà, du point de vue de l'entreprise, Apple, au moins, a le mérite d'éviter, on va dire, d'être au cœur de l'actualité, puisque ils ont effectivement embauché que quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes sur la période, contrairement à ses concurrents. Mais les entreprises dont on parle, bah, c'est les autres, c'est pas Apple. Au moins, Apple se préserve d'une espèce de retour de bâton. On a eu une hyper croissance, on a recruté à tour de bras, on a été pris dans une espèce de folie d'embauche. Et maintenant, on dégonfle complètement. Et on licencie, voilà, 10 000 personnes par boîte.
Mais oui, mais si on reproche aux autres sociétés de renvoyer des gens, ce que je peux comprendre, encore une fois, on leur reproche de renvoyer des gens, est-ce que la situation, enfin, l'action de ces sociétés n'est quand même pas meilleure puisqu'ils ont donné du travail à plus de gens, alors qu'Apple, eux, ils ont dit non, vous, c'est bon, vous pouvez bosser, machin. Enfin, au-delà même de ces considérations-là, au final, Apple a créé moins d'embauches que ces autres sociétés qui renvoient aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas regarder Apple et leur dire « Ouais, enfin, vous avez quand même été un petit peu... Ah, » On n'a pas à leur dire « Vous avez été... » Dis-moi.
Tu peux dire aussi pour les salariés qui ont décroché un emploi chez Google, chez Amazon, bah, eux, ils ont peut-être fait des plans sur la comète en se disant « Bon, écoutez, voilà, je décroche un job, ça fait 2 ans que je suis là, et puis deux ans plus tard, je me fais virer. » tu vois, ok, ah, très bien, sûr. Apple t'a fait bosser, enfin, Facebook t'a fait bosser pendant 2 ans et t'es viré, et t'as acheté une maison, t'as acheté une voiture. Ça, du point de vue du salarié, on peut se dire que c'est.
Il est évident que les gens qui se font licencier, et c'est ce que je disais au départ, il est évident que pour eux, c'est la merde, c'est clair. Moi, ce dont je parle, c'est les gens qui ont été embauchés et qui ne sont pas licenciés, qui sont par dizaines de milliers encore plus importants que ceux qui se font licencier. Du coup, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que...
Oui, tu as un ratio qui reste plus important dans l'entreprise.
Mais qui reste monumental. C'est-à-dire que en supprimant les acquisitions, depuis 2016, Microsoft a doublé de taille. Si on supprime les acquisitions, on va dire qu'ils ont engagé 50 000 personnes. Encore une fois, je dis un chiffre au hasard. Et maintenant, ils en renvoient 10 000. Et bien, il reste 40 000 personnes qui ont eu un boulot et qui sont encore chez Microsoft. Alors, peut-être qu'ils seront envoyés dans 2 semaines, j'en sais rien.
Mais... C'est vrai, voilà, j'allais dire sous réserve de n'y ait pas un autre plan social dans un an, parce que peut-être qu'il y aura une contraction plus importante.
Mais à ce stade, ils ont quand même engagé et donné plus de boulot qu'Apple. Apple, tu vois, ils ont dit non, c'est bon. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc... Il y a quand même les GAFAM. Oui, ils renvoient aujourd'hui au total, je crois, 38 000 personnes. Ils ont quand même engagé, je ne sais pas, 120, 130 000 personnes. Donc, est-ce qu'il aurait fallu qu'ils n'engagent que 20 000 personnes ? Est-ce qu'on aurait été plus content dans cette situation ? Tu vois, c'est ça qui me travaille un petit peu.
Je vois ton point.
Ouais, je pense que la question, c'est plus de savoir si est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de, comme tu le disais au début, en fait, les bénéfices, ils sont là malgré tout. Est-ce que c'est pas plutôt un gage envers les actionnaires et de se dire, bah voilà, on sent qu'on va passer une période de crise. Donc c'est pas vraiment qu'on aurait pu garder ces personnes-là, mais au final, on les vire pour donner un gage à nos actionnaires et puis basta quoi. C'est plutôt ça que le fait de savoir au final si le compte est positif. Certes, il y a plus de gens maintenant qu'avant, mais j'ai un doute là-dessus.
Ouais, les bénéfices de ces sociétés se comptent en dizaines de milliards d'euros, ou en tout cas les revenus. Oui, je ne sais pas si peut-être que ma question est mal posée. Peut-être que ce n'est pas important qu'est-ce qu'ils ont engagé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas engagé par rapport à leur masse salariale d'origine. Peut-être, mais je ne sais pas. J'arrive pas à ne pas me poser cette question malgré tout dans ces questions.
Le seul reste positif, évidemment, mais après... Je sais pas, en fait, faudrait voir. On sait même pas dans quel département c'est qu'ils ont viré les gens.
Après, on peut plancher sur les détails des trucs. À la limite, c'est peut-être moins important.
Parce que c'est sûr qu'il y a des trucs dans lesquels ils sont engagés aussi qui vont pas super bien. Quand tu vois le métaverse de Facebook, tu peux comprendre qu'à un moment ils se disent ouais, peut-être qu'on s'est on est un peu vite.
Voilà. Ah bah Microsoft renvoie dans le l'AR et la VR, hein, par exemple.
Ouais, tout à fait. Quelle surprise.
Bon, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est qu'on montre Apple et on dit, bah regardez, eux, ils renvoient pas. c'est bien. Ou je sais pas, il y a genre une implication, genre, ok, bon, au moins ils sont sages, tu vois. Mais oui, au final, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont été engagés par Microsoft et Amazon et Meta et Alphabet, qui ont aujourd'hui un boulot. Et chez Apple, bah non, ils n'ont pas. Bon, bref, peu importe. Donc voilà pour ce petit angle sur les licenciements dans les GAFAM. Il y a aussi un autre sujet, c'est The United States of America versus la tech. Il y a beaucoup de combats de différents départements et agences du gouvernement contre la tech en général. On a par exemple le département de la justice, qui est l'équivalent du ministère de la justice aux États-Unis, qui se préparerait à lancer un procès contre Google pour, là on parle plus de petits détails, mais pour son hégémonie dans le domaine de la publicité. Et ça serait un gros morceau, évidemment. Donc, c'est une question qui se clarifiera dans les jours à venir. Dans le même temps, la FEC a donné raison à Google dans le procès du Parti républicain qui leur reprochait, on en a parlé à plusieurs reprises, qui leur reprochait de classer leurs mails de campagne comme du spam, parce qu'il ressemblait beaucoup à du spam. Donc, Google a eu gain de cause là-dedans. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a une petite poussée de fièvre un petit peu ridicule de la part des conservateurs aux États-Unis, encore une fois, qui pensent que l'IA est woke, parce que ChatGPT est woke. Ce qui est quand même un petit peu... Enfin, c'est cet éternel combat un peu artificiel contre la philosophie woke.
On n'a pas fini d'entendre parler, à mon avis.
Pardon ?
On n'a pas fini d'entendre parler.
Je trouve que le fait de... comment dire ? Une sorte de panique morale que l'IA fait attention à être inclusive et qu'on s'en émeuve, il y a... Enfin bon, bref, il y aurait des choses à dire là-dessus. Mais un sujet qui est vraiment intéressant pour le coup, c'est la manière dont différents États bannissent TikTok sur les appareils, les téléphones et les ordinateurs fournis par les gouvernements de ces États. On est aujourd'hui à 24 États américains qui ont banni TikTok. Et beaucoup de gens pensent que c'est une sorte de panique qui n'est pas justifiée, dont les promoteurs ne comprennent pas les implications de TikTok et les vrais problèmes que ça pourrait poser. Et c'est une surréaction totale. Moi, j'ai un avis là-dessus. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que TikTok, dont la société mère est ByteDance, évidemment, une société chinoise, est-ce que c'est justifié pour les États de bannir l'utilisation? On rappelle que ça pose des problèmes comme par exemple les comptes TikTok d'équipes de sport. Il y a plein d'exemples hein, de choses gérées par des employés de ces États qui du coup ne peuvent plus les gérer et auront du mal à toucher le public qu'elles espèrent.
Certaines institutions culturelles, entre autres, j'avais lu que dans je ne sais plus quel État, il y avait justement... on avait des comptes qui appartenaient, je ne sais plus, c'est au parc national ou quoi que ce soit, qui du coup ne pouvaient plus être utilisés puisque ça avait été banni.
Exactement, exactement. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai un avis là-dessus que j'exprimerai un peu plus tard, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est justifié de bannir TikTok? C'est une surréaction? Les politiciens comprennent rien? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Siegfried, tu avais l'air de commencer à parler.
Écoute, je pense qu'on n'a pas tous les éléments clés en main, mais je peux comprendre l'inquiétude. Déjà, il faut voir que c'est le premier réseau social qui ne vient pas des États-Unis, je pense, à avoir un tel succès et qui fait un carton comme ça. Et au final, je peux comprendre que ça inquiète les législateurs, enfin les personnes à la tête des États.
Les responsables politiques et les législateurs.
Ouais. Parce qu'effectivement, et après, je ne sais pas, l'idée que la Chine puisse avoir comment dire, puisse être présente, si tu veux, dans l'application, et sans doute, on se doute bien que derrière, si tu veux, il y a des objectifs politiques, je peux comprendre que ça inquiète. Après, est-ce que dans la réalité, ça fait quelque chose? Parce qu'au final, il y a assez peu de ce que j'en ai lu aussi, il y a assez peu d'appareils qui sont concernés et très peu sur lesquels vraiment TikTok est installé. Donc, voilà.
On a effectivement des États où on a appris après un ban annoncé en grande pompe que l'application était installée genre sur deux appareils et que, bon voilà,
c'est énorme.
Il y en avait 35 dans l'état et deux d'entre eux avaient TikTok installé, dont un pour des questions de recherche et ils s'en servaient plus, ce genre de truc quoi. Julien, alors tu vois les choses peut-être d'un point de vue effectivement un petit peu plus légal souvent, mais sur ce point, est-ce que tu as des craintes de l'activité, pas forcément d'une manière légale, mais est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de l'origine chinoise de TikTok ou est-ce qu'on surréagit ?
En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que les Américains, à travers TikTok, comme disait Captain Web, Siegfried, découvrent, entre guillemets, ce que ça fait d'être une colonie numérique, au sens où nous, en Europe, on a très peu de très grosses entreprises tech, et en fait, tous nos services sont américains. Donc nous, on est acclimatés à fonctionner avec Google, avec Amazon, avec Facebook. Il y a deux trois entreprises comme Spotify en Suède qui existent et qui a un rayonnement mondial et qui percent ailleurs. Mais les Américains, eux, ils sont acclimatés à travailler avec des boîtes tech américaines. Et là, pour une fois, on a une application chinoise et qui a un succès mais extraordinaire. Moi, j'ai découvert TikTok l'année dernière en m'y mettant vraiment. Je suis fasciné à la fois par crainte et par attrait de la puissance de l'application. Et là, j'ai l'impression que les Américains et notamment les législateurs, les autorités, découvrent ce que ça fait d'être, entre guillemets, sur un segment particulier, être une colonie numérique, où c'est une application étrangère, en plus qui est née dans un état autoritaire, pour ne pas dire pire, où il y a par ailleurs, par-dessus le marché, on a des fantasmes de est-ce que la Chine s'en sert en sous-marin pour collecter des données, pour espionner ceci ou cela. Donc,
Puis c'est vrai que TikTok est extrêmement, l'algorithme est absolument hyper efficace, quoi. Je le vois. Moi, j'utilise pas vraiment TikTok. J'ai testé deux, trois fois, mais ayant des ados, je vois, si tu veux, l'effet que ça peut avoir, quoi. Ça peut être des heures passées dessus en une journée. Et j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça sur un autre réseau social où tu pouvais scroller comme ça sans arrêt pendant des heures sans t'arrêter. L'algorithme est hyper efficace. Et je peux comprendre que ça fasse peur de se dire que les gens passent autant de temps dessus.
Après, pour tout ce qui est la dimension espionnage, collecte de renseignements, je pense qu'il ne faut pas trop être naïf. TikTok est peut-être un levier d'action pour la Chine, mais il faut quand même se dire que la Chine a quand même largement d'autres capacités qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas ou qu'on peut supposer, mais qui ne dépendent pas d'une application commerciale standard. Enfin, ils n'ont pas besoin de ça dans l'absolu. Ça ne sera pas ça qui va sécuriser, bannir complètement TikTok, c'est pas ça qui va régler le problème, on va dire, géostratégique entre les États-Unis et la Chine et la rivalité stratégique.
C'est sûr.
On touche sur des trucs périphériques.
Oui, et en même temps, je suis pas. Alors évidemment, ça va pas régler les problèmes de géopolitique entre la Chine et les États-Unis, mais TikTok est vraiment en train de devenir l'application d'une génération. Alors, évidemment, je le rappelle, je pense qu'on a été assez précis, mais quand on parle de ban sur les appareils fournis par les États, donc pas les appareils individuels. On parle des appareils qui sont fournis aux professeurs, aux administrateurs, ce genre de choses. Chacun peut continuer à utiliser son appareil. Il y a même des gens qui ont des écoles qui ont banni TikTok sur leur réseau, sans doute par un firewall ou un truc comme ça. Bon, les gamins se connectent par leur réseau mobile et puis, leur réseau cellulaire et c'est réglé. Mais, je crois que le gros problème, en fait, avec ça, et c'était un petit peu la même chose avec Huawei, c'est qu'on ne parle pas d'un dommage qui est fait aujourd'hui. On ne dit pas aujourd'hui, la Chine a des campagnes d'influence sur TikTok. Et pour essayer d'influencer les États-Unis. On parle d'un danger potentiel à l'avenir qui est, je ne sais pas si le bannissement est une bonne idée, et si je vais au bout de ce raisonnement que je vais vous faire maintenant, la conclusion c'est, oui, peut-être qu'il faut bannir. Mais mon raisonnement c'est, peut-être qu'un jour ils pourront s'en servir, et TikTok est vraiment en train de devenir le réseau social d'une génération entière. Comme le disait Siegfried, il est extrêmement bien fait, il donne... il permet à une créativité incroyable d'éclore. Moi, je passe du temps sur TikTok et je peux vous dire que ce que j'y vois, ça me remplit d'une admiration sans borne pour l'humanité. Il y a des artistes incroyablement accomplis partout et d'un talent fou, et TikTok leur permet d'être plus visible. Et le truc, c'est que ça a commencé donc avec de la danse, puis il y a de la musique, du chant, mais de plus en plus, il y a aussi le TikTok politique, le TikTok de commentaires, le TikTok d'explications.
De vulgarisation aussi, oui, tout à fait.
De vulgarisation, c'est ça.
La vulgarisation scientifique est vachement bien foutue.
Et donc, ils sont rentrés, l'application a connu son premier succès avec les histoires de danse, mais aujourd'hui, c'est en train de devenir un petit peu l'Internet pour une génération. Et je dirais que c'est pas encore aussi vaste que YouTube, mais on commence à y arriver. Donc, il y a des réponses à tout. Et si jamais, c'est là que c'est difficile, si jamais il se trouve qu'effectivement, comme on l'a vu à plusieurs reprises, ByteDance et donc le Parti communiste chinois a ses entrées dans les informations de TikTok, on peut dire « Ah oui, mais on s'en fout, on va avoir quoi ? Mon nom, mon numéro de téléphone, est-ce que j'aime les vidéos de danse ?» Non, c'est pas que ça. Si on a été inquiété par le fait que Cambridge Analytica, avec les informations de Facebook, puisse potentiellement influencer les opinions dans des pays occidentaux, je crois qu'on est en droit d'être aussi inquiet par l'idée que le gouvernement chinois puisse avoir accès aux préférences. Encore une fois, il y a des informations politiques, des préférences politiques. Si vous suivez tel ou tel compte, si vous restez de plus en plus longtemps avec l'algorithme magique de TikTok qui réussit à cibler hyper précisément nos goûts, vous regardez un petit peu plus des vidéos de conservateurs ou de libéraux, libéraux au sens américain, donc de droite ou de gauche, etc. Ben, on va pouvoir vous cibler. Et autant qu'avec Cambridge Analytica, si ce n'est plus, peut-être vous diffusez un petit peu plus de ça, un petit peu plus de ça, motivé par le gouvernement chinois, qui, je sais qu'il est un petit peu facile de se dire, ah ben voilà, les Américains, ils font bien autant, ils font bien pire, regarde comment ils poussent leur puritanisme en supprimant des tableaux où on voit un bout de sein, ah, c'est de la colonie numérique, comme tu le disais, Julien, avec une certaine justesse, évidemment. Mais il y a une différence entre le gouvernement américain, et je suis désolé de le dire à des gens qui seraient peut-être particulièrement anti-américains, mais il y a une différence entre le gouvernement américain qui reste un gouvernement relativement libre et ouvert, ou en tout cas nos démocraties occidentales laissent quand même une certaine place à la liberté de parole. Le gouvernement chinois, c'est pas la même chose. On est dans un gouvernement complètement totalitaire qui est une autre paire de manches, si vous voulez. Donc, j'ai pas de réponse au final, mais autant à première vue, je me dirais, mais qu'est-ce que c'est que ces politiciens souvent du bord d'extrême droite aux États-Unis qui vont aller bannir TikTok sur des téléphones, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, ça va servir à rien. C'est ma tendance initiale. Et puis en même temps, je me dis, mais tous les enfants de 10 à 18 ans passent 4 heures par jour sur TikTok aujourd'hui.
Ouais. Non, mais c'est ça qui est fou. Et en fait, c'est ça, c'est le profilage. Parce que tu peux établir un profil qui est hyper précis sur un nombre de personnes. Alors, je ne sais pas combien il y a d'abonnés aux États-Unis, mais c'est assez incroyable de se dire que potentiellement, le gouvernement chinois, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, hein, une boîte chinoise, de toute façon, ne peut pas fonctionner si le gouvernement chinois derrière n'a pas ses entrées et n'a pas donné son accord. On a vu ce qui s'est passé avec Alibaba, etc. Je peux comprendre que ça inquiète beaucoup. Mais ce n'est pas un ban, effectivement, ce n'est pas un ban sur les devices du gouvernement qui va changer quoi que ce soit.
Et c'est pour ça que...
En fait,
vas-y, Julien.
En fait, j'allais dire... en fait, il y a peut-être... C'est peut-être pas tant sur le profilage. Alors, admettons, je pense qu'il y a effectivement peut-être que la Chine s'intéresse au profilage. Si ce sont, si c'est des applications installées sur les smartphones, voilà, qui sont dans les agences fédérales, les ministères, etc. Je me dis par contre que ce qui intéresse peut-être plus, si on reste dans cette idée de la Chine se sert de TikTok d'une façon ou d'une autre, ce qui peut-être intéresse plus la Chine, c'est à deux niveaux. Ce serait pousser son narratif à travers TikTok et dans le même temps exporter sa censure. On entend beaucoup maintenant parler de la Chine censurerait Internet dans ses frontières avec la fameuse grande muraille de Chine virtuelle qui permettait de filtrer les informations qui venaient de l'extérieur. Et là, de plus en plus, maintenant que c'est une puissance de plus en plus en projection vers l'international, mon sentiment, c'est que progressivement, elle exporte sa censure. Je peux prendre un exemple là, qui me vient en tête là immédiatement, c'est que lorsqu'il y a eu un tournoi de jeux de cartes Blizzard, la Hearthstone, où tu avais un jeune joueur qui a voulu faire un message de soutien lors des manifestations de Hong Kong, Blizzard, sachant que le marché chinois compte beaucoup pour lui, a pris peur et a pris des sanctions contre ce joueur, etc. Donc, moi, vis-à-vis de TikTok, c'est pas tant le profilage, c'est plutôt TikTok est une porte d'entrée pour pousser son narratif. Et si elle voit qu'on parle de certaines provinces, le Xinjiang, le Tibet, etc., elle pourrait agir à ce niveau-là.
Ouais.
C'est ça.
Et bah, je vais finir de faire monter la panique dans le cœur des bonnes gens qui nous écoutent, parce que j'ai sélectionné aussi un article qui explique de quelle manière TikTok a utilisé le heating, donc le chauffage, pour augmenter la viralité de vidéos dans son réseau. C'est pas un truc genre peut-être qu'ils le feront un jour, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Alors entendons-nous bien, en l'occurrence, c'était à des fins marketing, c'était pour donner plus de visibilité à des vidéos d'influenceurs auxquels ils voulaient plaire et qu'ils voulaient attirer sur la plateforme. Mais ils ont quand même, ils avaient un système qui, de manière assez peu étonnante, on imagine que techniquement c'est très facile à faire, poussait ces vidéos sur la page For You, qui est la page sur laquelle est présenté le flux algorithmique, et donc ils augmentaient de manière, entre guillemets, artificielle, la visibilité de vidéos et le nombre de vues de certaines vidéos. Donc, la connexion entre TikTok et surtout les téléphones des ados et le gouvernement chinois pousse certains trucs plutôt que d'autres, notamment par exemple de la propagande favorable au parti chinois, et bien tout à coup, la connexion est de plus en plus facile à faire. Donc, le truc, c'est que
potentiellement,
si au bout de mon raisonnement... Potentiellement, oui.
Potentiellement, c'est une arme redoutable.
Mais oui, mais c'est ça. Et donc, mon raisonnement, c'est du coup, oui, OK, il faut bannir TikTok. mais ça, c'est un pas trop loin, quoi. Je veux dire, il ne faut pas déconner. Mais...
Si je ne dis pas de bêtises, l'Inde l'a fait. Alors l'Inde, ils ont des intérêts géographiques
peut-être un petit peu plus précis.
C'est différent. Ils ont des conflits un peu militaires dans les montagnes. Mais c'est pour donner une idée qu'il y a des pays, on va dire, qui sont proches de nos standards. On va dire que l'Inde est proche des standards un peu démocratiques, même si la trajectoire du pays est un peu différente ces dernières années. Mais eux, ils ont pris la décision de bannir TikTok. Et alors pas que sur les téléphones du gouvernement, c'est, si je ne me trompe pas, sur tout le réseau. Enfin, c'est toutes les personnes en Inde, il n'y a plus de TikTok. Et cette application et d'autres.
Ouais. Et ils sont en combat contre Google. D'ailleurs, je peux en parler maintenant. Ils ont imposé à Google d'autoriser en Inde. Hein, ils ont imposé à Google d'autoriser les App Store tiers avant la fin du mois, dans 6 jours. Hein. Je ne sais pas comment Google va développer ça en 6 jours, mais c'était un truc qui passait depuis un moment. Donc, ils sont particulièrement sévères avec la tech. Dans le même temps, Narendra Modi a aussi fait interdire un documentaire de la BBC qui détaille des manifestations et des émeutes religieuses dans sa région en 2002. Et donc, ils sont un petit peu... Bref, la Chine, c'est un peu particulier.
Alors, truc amusant, c'est si tu veux, on sait que TikTok a une version différente en Chine. C'est pas du tout le même TikTok que celui qu'on a ici pour des raisons de censure. Mais Hong Kong, qui pour le coup est, entre guillemets, une région administrative spéciale qui est censée... TikTok n'existe plus à Hong Kong. Tu n'as plus... il a été complètement bloqué. Et donc, TikTok, si tu veux y accéder à Hong Kong, tu n'y arriveras pas parce qu'il n'est plus présent.
Bon, à moins d'utiliser un VPN, par exemple, peut-être.
Oui, bien sûr, à moins d'utiliser un VPN, ce que beaucoup de monde fait.
Si vous avez la réponse à cette question, disons que mon propos n'était pas forcément de donner une réponse définitive, mais d'aborder cette question d'une manière un petit peu différente, parce que je crois que souvent, on a tendance à se dire, bannir TikTok sur les trucs, ou même, c'est de la panique morale contre la Chine, c'est un épouvantail qu'on agite pour exciter sa base. Et peut-être que c'est ça. Et peut-être que tous les efforts de TikTok pour dire on va ouvrir nos algorithmes, on va tout héberger on va tout héberger aux États-Unis, vous allez voir, ça va être super clean. Peut-être qu'ils sont vraiment en train d'essayer de faire ça, c'est possible. Mais cette préoccupation reste importante à ce stade aujourd'hui. On verra comment ça évolue. J'ai quelques sujets qui vont être dans la newsletter que je vais vous inviter à aller lire. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com. Mais il y a quelques sujets que je vais évoquer très rapidement avant de passer au reste des infos. Parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants cette semaine, comme par exemple un article sur la manière dont la Finlande combat la désinformation. Et il y a un index qui s'appelle le Media Literacy Index, je ne sais pas comment le traduire, de compréhension des médias, l'index de, oui, peut-être de compréhension des médias, qui classe la manière dont les populations européennes notamment, mais pas que, réussissent à décrypter la désinformation et à comprendre ce qu'elles lisent sur Internet et dans les médias. La Finlande et les pays nordiques en général sont dans le premier groupe. La Finlande est à la première place. Il y a un article intéressant qui détaille la manière dont ça se passe dans les classes, par exemple, à l'école. Mais la partie qui m'intéresse pour notre mini-discussion ici, c'est la place de la France. Il y a 5 groupes. Le premier auquel appartient la Finlande, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, le cinquième étant celui dans lequel la population a le moins de maîtrise de ces sujets. Et donc, le premier et le deuxième sont plutôt très bons, troisième moyen, quatrième moins bien et cinquième vraiment pas bon. Je suis curieux, j'imagine que vous n'avez pas lu le classement, je suis curieux de vous demander où vous pensez que se situe la France dans ce classement. On va être vague. Bon, hein,
J'aurais dit deuxième ou troisième.
Moi, d'accord, je dirais troisième. Je pensais que ça allait être catastrophique. Enfin, ouais. J'ai peur que ce soit catastrophique dans la manière dont tu avances sur le sujet. Mais je me dis peut-être pas tant que ça. Je me dis peut-être on est moyen, on est passable.
D'accord, passable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, d'instinct comme ça, diraient « Ah, oh, t'as vu anti-vax, tous les trucs avec la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de désinformation et on croit
des machins. » Il y a aussi beaucoup de debunking hein, sur toutes les chaînes maintenant, sur l'AFP, sur France Info, en permanence. T'as des fake news qui sont debunkés en permanence, donc bon.
Alors, la Finlande a 76 points. Elle est dans le premier groupe, comme je le disais, c'est le plus haut. Hein. Dans le premier groupe, il y a aussi des pays qui sont le plus bas, c'est 66 points du premier groupe. La France est dans 100, le deuxième groupe. C'est pas tout à fait sur 100. C'est un index qui classe. C'est pas tout à fait sur 100. D'accord. La France a 56 points. 58, pardon. 58. Donc vraiment le haut du deuxième groupe. On a ensuite dans les groupes suivants, dans le groupe 3, l'Italie, la Hongrie, etc. Groupe 4, Roumanie, Ukraine, Turquie. Et on tombe à des niveaux comme 30 points, ce genre de choses. Et puis dans le dernier groupe. Pardon, ça c'est le dernier groupe. Qu'est-ce que je dis ? Ça, c'est le quatrième groupe. Et dans le dernier groupe, on est genre 24 points, 25 points, ce genre de choses. Donc, la France est dans le haut du deuxième groupe. Pas tout à fait dans le premier groupe, mais dans le haut du deuxième groupe. Je trouve ça plutôt intéressant parce qu'effectivement, à première vue, je crois que, en particulier vu de l'extérieur, j'aurais tendance à penser que les Français se disent « Oh, nous, c'est super pourri, troisième groupe en bas ou limite quatrième », tu vois, ce genre de choses. En fait, non.
Non, mais ça ne m'étonne pas, finalement. Au final, on est quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'est quand même pas si mal informé que ça. Et c'est juste qu'on voit toutes les théories du complot, les anti-vax, etc. On les voit, on en parle beaucoup. Mais la représentation dans la société en général n'est peut-être pas si élevée que ça. C'est juste que.
Oui, ça fait un peu minorité bruyante. Ouais, mais c'est ça. Il y a la majorité silencieuse qui vit sa vie avec l'actualité et ça va, et sans partir en vrille dès qu'il se passe un truc.
En tout cas, cet index très sérieux semble indiquer qu'effectivement, en France, il y a plein de choses qui sont prises en compte, hein, liberté de la presse, capacité des gens à comprendre, debunking, etc. Mais cet index semble dire que pas trop mal, on s'en sort pas trop mal, donc un mini cocorico, on va dire. Il y a aussi un mini cocorico européen avec cet article du New York Times toujours qui montre la manière dont les Pays-Bas réussissent à faire plier la tech et comment est-ce qu'ils réussissent à faire plier la tech et les GAFAM et les big tech. Eh ben, c'est en utilisant évidemment la législation européenne. Ils ont une expertise qui est importante dans le gouvernement et ils font plier Google notamment grâce à la législation européenne. On parle de RGPD, bien sûr. On voit venir le DSA et le DMA qui vont ajouter des outils à la législation européenne pour ça. Je vous laisserai aller lire l'article, mais c'est assez intéressant. C'est marrant de voir comme les Américains découvrent la manière dont on peut utiliser la loi pour... Ce qui me frappe là-dedans, c'est de voir à quel point les GAFAM semblaient, je disais tout à l'heure, les géants inattaquables, inflexibles, aussi puissants que des États, sauf que il y a une différence majeure entre les sociétés et les États, c'est que les sociétés, les États se plient aux lois, pardon, les sociétés se plient aux lois et les États, ils font les lois. Et à partir du moment où tu mets des amendes suffisamment élevées, peut-être même des responsabilités pénales pour les personnes responsables de certaines décisions, eh ben les sociétés, elles font ce qu'on leur dit de faire. Donc,
la carotte et le bâton.
Et la carotte, c'est les 450 millions de... c'est-à-dire que les Pays-Bas, avec leurs combien 17 millions de citoyens, peut-être que s'ils faisaient chier les GAFAM, les GAFAM leur diraient « Bon, ok, on arrête de faire du business aux Pays-Bas. » L'Europe, 450 millions de personnes, tout à coup, tu dis « Il vaut peut-être mieux qu'on continue à faire du business chez vous, quoi. » Donc, c'est quelque chose... on me dit dans la chatroom, le rendez-vous tech fait gagner 2 points à la France dans l'index de littératie. Merci beaucoup. Oui, c'est gentil. Bref, l'Union européenne et la loi, tout simplement, peut faire plier les GAFAM. On voit que Apple s'apprête à utiliser de l'USB-C, peut-être même à ouvrir l'App Store, qu'on soit d'accord ou pas avec la décision. C'est la loi qui fait ça. Encore c'est vraiment des sujets intéressants, donc je passe un petit peu plus de temps dessus. Vraiment un sujet tech, c'est le refroidissement passif dans les ordinateurs, mais le refroidissement passif qui fait du vent. Il y a une société qui fait du Solid State Active Cooling, qui était au CES, qu'on n'a pas vraiment vu passer, mais dont PC World, sur laquelle PC World a fait une vidéo qui est vraiment intéressante. Vous savez que le refroidissement, généralement dans les portables ou dans les ordinateurs portables, j'entends, c'est des petits ventilateurs qui font beaucoup de bruit et qui n'arrivent pas très très bien à refroidir. Et bien là, cette société, dont j'ai oublié le nom, Froor Systems, a fait une sorte de truc super plat qui ressemble un peu à une puce large qui, par vibration, crée un flux d'air important qui marche mieux qu'un ventilateur, mais qui ne fait pas de bruit. Je vous laisserai aller voir la vidéo, elle fait 15 minutes, elle est super intéressante. Mais si ça... Alors, on voit beaucoup de choses qui ne deviennent rien au CES, mais là, il dit les produits vont arriver dès la fin 2023. On a des deals déjà avec des boîtes. Ça pourrait être une évolution importante pour ce type d'appareil. Moi, qui suis allergique au bruit des ventilateurs, j'ai hâte de voir ça. Puis le dernier truc qui est fait pour, j'allais dire pour le Captain Web, je crois que c'est le genre de truc qui pourrait te plaire, c'est Mittens, le chat joueur d'échecs. Est-ce que tu sais ce que c'est que Mittens?
Alors, écoute, pas du tout.
Chess.com.
Raconte-moi.
Chess.com et d'autres sites d'échecs ont créé des bots pour à affronter quand on est un joueur d'échecs. Sauf que là, ils ont créé Mittens, qui est un petit chat super mignon qui joue ultra bien. On sait depuis un moment que les bots aujourd'hui aux échecs peuvent écrabouiller n'importe qui joue ultra bien et qui en même temps, on va dire, c'est pas qu'il t'insulte, mais il détruit ton âme. C'est genre ce qu'il dit pendant qu'il est en train de jouer, c'est « I am inevitable, I am forever, miaou
ah, ».
ce genre de truc, il dit par exemple
qui a inventé un truc pareil,
gaze into the long abyss. C'est, tu sais, il invoque Nietzsche, enfin ce genre de truc. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est en plus, ça fait un point sur la popularité des échecs avec différents systèmes, différents types de jeux, etc., qui est très populaire en ce moment, qui a énormément gagné en popularité, et vous pouvez aller jouer avec Mittens si vous le souhaitez, sur chess.com. Et voilà pour... Bon, tout ça, c'est dans la newsletter. Allez vous abonner, c'est des trucs intéressants à lire. Et du coup, on va passer à nos news et rumeurs. Mais avant, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission si vous appréciez ce qu'on fait. D'ailleurs, la newsletter est plus longue. Il y a quelques articles en plus pour ceux qui sont abonnés à Patreon. Donc, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, failli dire jeu, et soutenir le rendez-vous tech avec quelques euros par mois, 1 euro par épisode par exemple, un petit peu plus si vous le souhaitez, si vous voulez avoir plus de bonus cool, mais l'essentiel est disponible pour tout le monde. Il y a par exemple l'absence de publicité dans les émissions, il y a également des contenus bonus comme la newsletter, l'accès à une plus grande partie du Discord, le Discord qui est un endroit très très cool et très sympa où on passe du temps, on discute de plein de choses, enfin bref. L'essentiel, c'est quand même de soutenir l'émission. Et si vous appréciez ce qu'on fait et que vous voulez faire un geste envers les créateurs de contenu qui font du contenu, j'espère, de qualité, bah, c'est le meilleur moyen. D'ailleurs, il y a plein de gens hein, sur Patreon. Donc, si vous faites un petit budget, je ne sais pas, un budget genre je vais être abonné à Netflix et soutenir des créateurs et des créatrices sur, qui font des choses sur Internet, bah, Patreon, c'est un bon moyen de le faire. Vous vous dites, je vais mettre 15-20 euros par mois dans ces soutiens-là, si vous avez les moyens, bien sûr, de vous le permettre. Et c'est une bonne activité, je trouve, un bon moyen d'avoir une sorte d'équilibre entre les créateurs indépendants et peut-être les plus grosses sociétés, parce que je pense qu'on a besoin, des deux. Et donc, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez, au moment où vous mettez les clés dans le bol, et ben vous souvenir que ça fait cling. Et là, vous dites, bah Patrick, je vais aller sur Patreon pour soutenir des créateurs. Leech, un des patriotes, me disait, mais tu te rends compte, il y a plein de gens qui n'ont pas de bol. Il y a plein de gens qui n'ont pas de bol, qui ne vont jamais mettre les clés, jamais se souvenir. Donc, beaucoup plus malin, tu devrais dire, quand les gens vont prendre leur café le matin ou en rentrant à la maison, ça, il faudrait leur dire, ça fait glou-glou la machine à café. Et là, à ce moment, ils vont s'en souvenir. Donc, plutôt que cling Patrick, souvenez-vous, glou-glou Patrick. Je ne sais pas si ça ne fait pas genre, vous êtes en train de me noyer là, quand même. J'hésite tout à coup, Leech, ta suggestion est peut-être un petit peu... Bon, quand vous prenez votre café, ou alors quand vous mettez les clés dans le bol, vous pouvez vous souvenir d'aller voir sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on continue avec le reste de l'actualité. Le reste de l'actualité, c'est par exemple plein de nouveaux produits Apple. C'est révolutionnaire, c'est incroyable, non ? Tout ce qu'ils ont annoncé.
Vous avez c'est toujours été... révolutionnaire.
Mais oui. Bon, plus sérieusement, ils ont annoncé quoi ? Des nouveaux Mac Pro, des nouveaux MacBook Pro, un nouveau Mac Mini, tous avec des processeurs M2, M2 Pro, etc. et Pro Max. Il y a un nouveau HomePod, enfin... un ancien HomePod remis au goût du jour, le gros qui avait été, qui n'était plus produit, revient. Quoi d'autre ? Voilà, en gros, c'est à peu près tout. Pas si c'est vraiment nécessaire de passer 2 heures dessus, à moins que vous ayez des choses à dire sur ces nouveaux produits Apple.
Écoute, pas trop de mon côté.
C'est des renouvellements de gamme et de produits, il me semble. C'est pas non plus.
Tu as raison.
La révolution, ça progresse, mais c'est pas...
C'est ça, c'est juste en gros des nouveaux modèles de produits existants. Ce qui est vraiment intéressant, c'était, je crois que c'est Gurman, encore une fois, hein, toujours lui quand on parle d'Apple, qui disait, le truc qui est intéressant, c'est que c'est le timing parfait pour booster le trimestre du printemps pour Apple. Ils les sortent juste maintenant. Et pour le trimestre du printemps, qui coïncide plus ou moins avec ces ventes-là, et ben comme ils ont des produits qui sous-performent ou qui font un petit peu moins bien, et ben, ils auront quand même des trucs à vendre. Et donc, ça va booster leur, leur trimestre. Malin chez Apple. Malin, malin.
Pas mal.
une autre chose qui est peut-être un petit peu plus intéressante, c'est... parler d'IA. It's AI time. AI time, chaque épisode. Maintenant, on a notre petite section intelligence artificielle.
Ça va être le sujet de l'année 2023, mais tout le temps, quoi. Je pense qu'on va, on va avoir des choses folles.
Complètement, on est assez d'accord. D'abord, Microsoft a confirmé son partenariat avec OpenAI. Ils ont investi quelque chose comme 10 milliards. On en parlait, c'était une rumeur il y a quelques temps. Ils ont un partenariat étendu avec OpenAI, donc ça, ça s'est concrétisé. On a également des confirmations de la panique de Google qui serait en train de lancer une vingtaine de produits avec intelligence artificielle. Donc vraiment, ChatGPT a eu son effet. Un commentaire de Yann LeCun, qui est le responsable de l'IA chez Meta, qui dit que ChatGPT n'est pas particulièrement novateur. C'est vraiment intéressant ça, parce que comme on s'en doutait avec ce qu'on avait vu de Lambda, l'IA de Google, l'IA conversationnelle de Google, en fait, il y a plein de sociétés qui font aussi bien que ChatGPT. C'est juste que personne n'en a fait des produits ou ne les a présentés de manière aussi publique. Et donc, c'est d'abord une course pour OpenAI pour prendre le marché. Avec Microsoft, ils sont plutôt en bonne position parce que Microsoft n'a pas des performances aussi bonnes en interne pour l'intelligence artificielle. Mais on va avoir des outils de ce type qui vont venir de partout. Ce n'est pas que OpenAI a découvert une sorte de truc incroyable que personne d'autre n'a trouvé. Donc, ça va arriver de partout. Et puis, il y a un article intéressant sur les raisons pour lesquelles ChatGPT est une vraie menace pour Google. C'est Khan Dourouk qui a écrit cet article, qui, en gros, je vous explique la base de son article, c'est le problème de Google, c'est pas qu'ils font moins bien que ChatGPT, c'est qu'ils ont été tellement dominants pendant tellement longtemps qu'il n'y a eu aucune concurrence et que leur produit s'est transformé en enfer d'optimisation de recherche, de SEO et d'expérience utilisateur dégradée, avec énormément de spam dans les résultats. Et je crois qu'on aurait du mal à lui donner tort, parce qu'un des énormes problèmes de Google, effectivement, c'est que tout le monde a tellement optimisé pour Google qu'il est devenu... Oh, j'utilise tout le temps Google, hein, malgré tout, et je pense que les résultats sont bons, mais il y a tellement de trucs qu'il faut parser Google. Tu fais un résultat de recherche et tu dis « Alors, ça, c'est de la pub, ça, c'est du spam, ça, c'est un truc qui a été écrit, optimisation SEO. Ah, voilà un résultat qui pourrait être intéressant. » Souvent, c'est sur Reddit ou des trucs faits à la main, ironiquement. Mais je trouve que l'argument a du sens. Le vrai problème de Google, c'est pas l'émergence de ChatGPT, c'est la dominance de Google qui fait que l'expérience s'est dégradée. Je sais pas si ça vous parle, mais...
C'est-à-dire je pense qu'on utilise, moi je suis comme toi, j'utilise que Google, en fait. Pourquoi ? Parce
moi, j'utilise beaucoup Brave, je précise, je combats activement mes mauvaises habitudes, mais pardon. Vas-y.
Pas moi, je suis dedans à 100%. Mais on arrive peut-être à la fin d'une époque, hein. On se rappelle, pour ceux qui étaient là à l'époque, quand Yahoo et son annuaire, où tout le monde allait chercher dessus, avec des trucs qui étaient référencés à la main, il y a eu AltaVista, mais quand AltaVista donnait des résultats qui n'étaient quand même pas terribles, quand Google est arrivé, en l'espace de 6 mois, j'ai l'impression que tout le monde est passé sur Google, et que depuis, ça ne s'est pas arrêté. Est-ce qu'on n'arrive pas dans une nouvelle époque, si tu veux, où effectivement, parce que qu'on utilise ChatGPT avec ses résultats en langage naturel et tout, moi, ça m'a impressionné, honnêtement. C'est la première fois, je pense, que vraiment, depuis longtemps, je vois une technologie où je me fais dire « Ok, ça risque de tout changer. Ouais. » Et je peux comprendre qu'ils s'inquiètent chez Google, quoi, parce que... Ouais.
Mais...
Mon sentiment, c'est qu'effectivement, comme tu dis, c'est que Google, comme il est ultra dominant, c'est que tout le monde est poussé à essayer de comprendre comment Google fonctionne et satisfaire les paramètres qu'il impose, par exemple avoir un titre d'une certaine longueur, une structuration d'article voilà, qui soit claire pour que quand son robot qui vient scanner la page, il comprenne tout. Donc du coup, ça a poussé tous les sites
Numérama, à... d'ailleurs, hein. Vous êtes très très bon pour ce genre de choses.
À converger vers ce que demande Google. Donc tu as ça, puis tu as aussi effectivement, comme tu dis, tout ce qui est le spam de SEO ou les pages un peu, on va dire, douteuses qui jouent aussi là-dessus. Et en fait, je trouve aussi que là, Google, c'est un peu l'histoire qui se retourne contre lui, parce que au milieu des années 2000 dans les années 2010, Google a commencé à donner lui-même les réponses directement dans le moteur de recherche, dans son moteur de recherche, au lieu de pointer des liens. Par exemple, quand on tape météo Paris ou bourse, au lieu de donner météo France ou le site de la bourse, etc., et les gens vont sur ces sites et amènent du trafic, et ben du coup tout se passe dans Google. Et ben là, je trouve que c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est que maintenant, si ChatGPT est interfacé sur d'autres moteurs de recherche et ça va être un problème pour Google, c'est qu'on n'aura plus besoin d'aller sur Google. On demande à l'IA de nous chercher une réponse et au lieu d'aller dans Google, on ira dans ChatGPT. Et en fait, ça sera le contre-coup de ce qu'a fait Google sur les sites web.
Et du coup, ça risque d'avoir une influence absolument folle sur le trafic des sites parce que tu n'auras plus besoin de sortir de ton moteur de recherche, tu auras la réponse directement. Il y a énormément de sites, imaginons, je ne sais pas, un truc tout con, les sites de recettes de cuisine, si tu veux. Là où avant, il y avait un lien parce que les gens cliquaient pour aller lire le truc et donc ils affichaient de la pub et donc ils gagnaient de l'argent, tu auras le résultat directement dans le moteur. Ça risque de tout changer. On est vraiment, j'ai l'impression, sur une ère nouvelle qui va s'ouvrir. Je suis curieux. Je suis curieux de voir ça parce que vraiment, ça peut tout changer.
Je crois que c'est assez certain. C'est le point de bascule en 2023 et aujourd'hui en 2024 qui fait que les choses vont évoluer dans ce sens. Là où c'est marrant, ce que tu disais, Julien, c'est que en fait, Google, sans le vouloir, s'orientait vers l'expérience utilisateur plus proche de ce que propose l'intelligence artificielle de ChatGPT, c'est-à-dire que au lieu de t'envoyer sur un autre site, ils te donnent juste ta réponse tout de suite là sur le truc. Et quand tu dis ils extrayaient les informations pour les présenter sur leur propre page, c'est vrai. Mais c'est du coup une expérience que veulent les utilisateurs puisqu'ils apprécient tant ChatGPT. Donc c'est un petit peu une ironie du sort. Mais là où c'est vraiment intéressant de considérer cet aspect, ils te donnent juste la réponse et donc t'as pas besoin d'aller nulle part. C'est un truc qu'on a évoqué par le passé, mais sur lequel j'aimerais insister un petit peu plus, notamment à cause d'une discussion qu'on a eue sur le Discord avec des gens qui parlaient de ce sujet dans le channel Tech et qui disaient, je schématise un petit peu, en gros, bon ok, l'IA c'est génial, mais quid des problèmes, quid des limitations, quid des dangers potentiels. Et il y a tel et tel et tel et tel truc. J'espère qu'on a quand même mentionné ce genre de choses par le passé, mais c'est vrai qu'il est difficile dans un premier temps de ne pas être ébloui par la qualité de l'expérience utilisateur qu'on obtient et l'influence. Et je pense que maintenant, je vais passer un petit peu de temps à expliquer les problèmes, mais ça n'enlève en rien tous les bénéfices et les potentiels de cette technologie. Mais c'est vrai, il faut peut-être qu'on explique bien certains dangers, maintenant que l'émerveillement du début est un tout petit peu passé après quelques semaines, quelques mois, parce que ces dangers et ces problèmes sont bien réels. Et je ne parle pas là de la question du « les IA vont remplacer les gens et donc des gens vont perdre leur travail », ça c'est un danger potentiel, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des dangers inhérents à l'IA. Il y a par exemple un article qui continue à discuter de la manière dont CNET a utilisé des IA sans le dire à personne. Et Futurism, toujours, qui avait levé le loup il y a quelques semaines, a écrit un article sur la manière dont cette IA utilisée par CNET, dont on ne sait pas de laquelle il s'agit, a plagié d'autres articles. Et ils ont trouvé des formes de phrases, alors ce n'est pas des paragraphes entiers, mais c'est des formes de phrases qui montrent que, effectivement, certains éléments des articles venaient bah, d'autres articles de concurrents. Pourquoi ? Parce que l'IA, alors peut-être qu'elle était alimentée plus fréquemment que ne peut l'être une IA comme ChatGPT, dont les connaissances, entre guillemets, s'arrêtent à 2021. Mais il y a cette question de plagiat qui est un des problèmes, peut-être mineur parmi tout ce dont on va parler, mais je vous avais mis dans la newsletter de la semaine dernière deux vidéos vraiment intéressantes qui expliquent le fonctionnement de ces IA. D'une part, pour les IA génératives d'images, qui était une vidéo de Science étonnante de David Loipre, qui était vraiment intéressante, qui montre la manière dont ces images de Midjourney et ce genre de choses sont en fait comme des hallucinations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un ou deux ans, on avait fait on avait parlé des hallucinations d'IA. Ben, en fait, c'est du débruitage, c'est-à-dire qu'on apprend à des IA à débruiter une image qui est complètement aléatoire avec plein de pixels qui sont juste du bruit visuel, et à les débruiter et à trouver quelque chose dans ce bruit, tellement que même quand on met rien derrière une image, on n'a pas une image qui est bruitée mais juste du bruit, et ben elle peut trouver une interprétation originale d'un truc qu'on lui demande. Donc ça, c'est pour l'aspect image qui a ses propres problèmes, et pour l'aspect texte, comme je le dis parfois, on avait donc une autre vidéo de Monsieur Phi qui était présentée, qui expliquait la manière dont ça fonctionne. Comme je le dis parfois, c'est dans sa forme la plus simplifiée de l'autocomplete. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va essayer de chercher le mot suivant celui qu'il vient d'écrire, qui va être le plus probable en fonction de votre requête. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'IA textuelle, de l'IA générative textuelle, ne va pas chercher à répondre à une question, comme l'explique bien Monsieur Phi, mais va simplement chercher à avoir un texte, un mot qui suit, qui va être cohérent avec le mot précédent. Donc, il faut bien comprendre d'où elle vient, ce texte, d'où il vient. Et ce n'est pas une réponse à votre question, c'est essayer de faire un truc qui soit cohérent. Alors souvent, et je dirais même le plus souvent, ça donne un truc qui est non seulement cohérent, mais en plus juste, souvent très juste. Le problème, c'est qu'il suffit que ça soit des erreurs une fois sur 10 ou une fois sur 20, et ça peut vraiment poser des problèmes si on n'y fait pas attention. Si on en vient à faire confiance à l'IA, je crois qu'on a suffisamment d'avertissements, donc les gens comprennent ou comprendront que une IA, sa réponse ou son travail doit être vérifié. Quand on cherche du contenu créatif, ce n'est pas tellement un problème. Quand on lui demande d'écrire un mot, un poème, une chanson, on s'en fout. Mais quand on lui demande réponse factuelle sur une question précise, là, il faut savoir de quoi il s'agit. Et une erreur sur 10, et ce n'est pas une erreur, une réponse fausse, c'est une petite erreur dans une réponse juste, une date qui est fausse, une identité qui est fausse, ce genre de choses, sur une question historique, ce genre de choses. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. L'autre danger, c'est pour moi l'abondance de contenu. On se rapproche un petit peu des gens qui perdent leur travail ou des IA qui remplacent des personnes. L'abondance de contenu, et si on voit un peu plus long terme, au-delà des erreurs qui sont un problème facilement identifiable, ou en tout cas facilement, on peut facilement s'en méfier, l'abondance de contenu, si on voit à 1, 2, 5, 10 ans, et je l'avais évoqué aussi, mais je refais le point dessus, le jour où on peut créer un article, ou disons, on ne va pas dire une infinité, mais 10 articles pour le, entre guillemets, prix d'un seul, 10 vidéos ou 100 vidéos pour le prix d'une seule, avec un texte qui va être illustré par des images trouvées algorithmiquement ou même créées par des IA. On parlait du problème de Google pour lequel on allait optimiser le contenu. Et effectivement, il y a plein d'articles qui ont vous cherchez tel truc, il y a des fermes de contenu qui vont avoir un site entier avec des articles sur chaque outil possible sur Terre, et ils vont dire vous cherchez le meilleur marteau, vous cherchez le meilleur tournevis, vous cherchez la meilleure ponceuse électrique circulaire, et ils absorbent comme ça les réponses de Google, enfin ils obtiennent des liens vers Google. Mais imaginez un monde où on peut faire du contenu quasiment instantanément pour tous ces sujets, on va être complètement inondé, ça sera de plus en plus difficile d'avoir du contenu fiable. Alors peut-être que ça fera remonter la valeur du contenu fiable justement et du contenu créé par des gens de chair et d'os, c'est possible. Mais l'abondance de contenu est aussi quelque chose qui me fait peur. Donc comprendre d'où ça vient, comprendre quels peuvent être les problèmes, les erreurs factuelles, et puis l'abondance de contenu, bah, il faut le garder à l'œil, quoi. Encore plus bah, même, peut-être que ça va remplacer les humains. On peut produire tellement plus facilement. Je ne sais pas quel impact ça va avoir sur la société. Julien ?
Ça va en avoir beaucoup. Ouais,
non, vas-y,
Julien.
J'allais vous demander à tous les deux, dis-moi quel impact ça va avoir sur la société, le fait que le contenu soit infini.
Vas-y, je t'en prie, Siegfried.
Il repasse le ballon.
Nico Coppi disait qu'à l'ère des fake news, il avait du mal à accepter une réponse unique sans source. Et c'est vrai qu'on parlait de Microsoft tout à l'heure, qui était en train d'investir à mort pour prendre enfin sa revanche avec Bing sur Google. Mm-hmm. Ça fait quand même 20 ans qu'ils attendent. C'est une vraie question. Comment ça va être intégré dans un moteur de recherche? Comment tu crées un moteur de recherche? Parce qu'effectivement, avoir une réponse naturelle, mais tu es obligé de l'accompagner de liens, je pense, pour pouvoir vérifier les sources et pour avoir. Et ça, on n'en est pas encore là, quoi. Voilà.
Ah, mais surtout qu'il n'y a pas de lien. Une réponse d'une IA, c'est une sorte
digérer
de tout le contenu qu'on lui a donné, qui est genre tout le contenu du web, et il n'y a pas de source, quoi.
Je pense qu'il faudra faire un mixte entre les deux, c'est-à-dire avoir une réponse naturelle et en même temps donner, comme sur un moteur de recherche classique, des liens vers des sources qui, elles, peuvent être intéressantes. Mais l'abondance de contenu, c'est un vrai souci, parce qu'on s'imagine, on parlait de TikTok tout à l'heure, où tu pouvais scroller pendant des heures sur des vidéos sans arrêt qui durent 10 secondes. Est-ce que ça ne va pas être la même chose, si tu veux, avec une intelligence artificielle qui va créer des contenus ad vitam aeternam? C'est vrai que ça fait réfléchir.
Bah, tu parlais des recettes de cuisine. Une recette de cuisine, c'est un truc relativement simple. Tu illustres avec des images random. Bon, si tu te plantes un petit peu, c'est pas la fin du monde. Tu cherches recette de cuisine de tel truc sur YouTube. Tu risques d'avoir des millions de...
Bah oui, parce que c'est un truc qui va arriver très vite. Hein. Aujourd'hui, c'est la mode. Tu vois, quand tu ouvres YouTube, les vidéos avec juste du texte incrusté par-dessus des images qui durent une vidéo qui fait 1 minute, 2 minutes. On a plein d'exemples. À mon avis, ça va être très facile pour une IA de faire ça d'ici quoi, 6 mois, 1 an, quoi. Ouais. Peut-être même.
Et l'étape suivante, qui est pas si loin que ça, c'est de créer des vidéos carrément pour illustrer le truc que tu écris. J'imagine que au minimum, les règles d'utilisation de YouTube, je prends YouTube comme exemple au hasard, mais diront, est-ce que votre truc a été créé par une personne humaine ou par une IA, ou les deux? Il faut taguer, et quand tu fais ta recherche, tu peux décider si tu veux des résultats. Je vois bien arriver une sorte de ségrégation des IA, genre, ah non, moi je veux du contenu fait par des humains, hein, qu'est-ce que c'est? On arrive dans des scénarios de science-fiction dans pas si longtemps que ça, quoi.
Ouais. Ouais.
On peut imaginer que les plateformes d'elles-mêmes trouveront peut-être des modalités, soit pour exclure les vidéos entièrement générées, ou les images, ou les textes, ou pas de résultats, ou des options de tri pour chercher des contenus, on va dire, 100% humains, ou mixés entre les deux, ou 100% numériques. Je sais que le site web artistique qui s'appelle ArtStation a récemment été confronté à une controverse autour justement des images d'illustration générées par les IA. Il y en avait beaucoup qui arrivaient, et les artistes ont commencé à faire une espèce de grève numérique en envoyant des images censurées sur la plateforme. Et si je me trompe pas, ArtStation a modifié ses conditions générales d'utilisation pour expliquer que on interdirait dès à présent les images. Alors après, il faut arriver à les déceler, le principe, c'est que peut-être que les plateformes d'elles-mêmes vont peut-être aussi fournir des outils de tri, ou simplement dire, nous on veut des contenus humains, quoi, finalement. Et puis c'est peut-être ce que les internautes vont aussi rechercher. De même, c'est pas dit que moi j'aurais envie de voir des trucs générés de rien, on sait pas comment, sans qu'il y ait une touche humaine.
Je crois qu'on exprime ici notre biais charnel. Le biais charnel, ça c'est un mot qu'il faut, une expression qu'il faut retenir. C'est le fait qu'on est fait de chair et d'os, et qu'on part du principe que donc ce qu'on va faire, ça sera forcément mieux. Mais je suis pas convaincu que pour certaines choses, et peut-être même pour beaucoup de choses, ce que vont produire les IA, ça sera peut-être de bonne qualité. Surtout qu'encore une fois, on en est à ChatGPT-3, on peut faire ce petit raccourci intellectuel et dire, bah, quand on en sera à ChatGPT-20, peut-être que, tu vois, on préférera avoir une vidéo créée par une IA qui va nous faire juste ce qu'on veut comme on veut, plutôt qu'un truc avec un humain qui...
Surtout que les contenus, dire, là, certaines
mais...
fois...
Non, non, les podcasts faits par des humains, c'est bien mieux.
Pardon. Les podcasts faits par des humains, ouais, mais après, les vidéos où tu as juste du texte avec des images d'actualité qui passent en dessous, la qualité n'est pas forcément toujours fantastique. Hein.
Non, mais ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Moi, je te dis, dans un temps infiniment long, genre dans 3 ans, ah, oui. Tu vois. Dans 3 ans,
non, mais
il y aura
même
des
pas
vidéos...
Même pas 3 ans. GPT-4, ils ont promis quoi 100 fois plus puissant, je crois,
C'est 500 fois plus de paramètres. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est que les paramètres, je sais pas. Mais oui, non, mais c'est...
Cela dit... Pour GPT-4, ça a été débunké, hein, cette histoire de ce serait 100 fois plus puissant. Le créateur, alors peut-être qu'il a rétro-pédalé pour, au moment de l'annonce, surprendre tout le monde et montrer que ça, voilà, les paramètres sont encore plus nombreux que GPT-3, mais l'idée, ce ne serait pas d'augmenter le nombre de paramètres, mais de les raffiner et de les rendre... encore plus efficace sur un même volume de paramètres.
Ce qui... Surtout, faut pas oublier que pour l'instant, il travaille sur une base de données qui date de 2021. Ouais. La grande étape, ce serait de le connecter entre guillemets à Internet, c'est avec les dérives que ça peut provoquer. Voilà.
Oui, c'est tout à fait. Si on peut avoir une actualité qui est intégrée dans la base de données, peut-être que ça sera un petit peu plus compliqué à faire techniquement. Mais ce qu'il disait, en tout cas moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de gens disaient, ah mais tu te rends compte, avec 500 fois plus de paramètres, est-ce qu'on va pas passer le test de Turing qui essaye de détecter si une intelligence artificielle ou un robot est aussi intelligent, conscient qu'un humain, ce qui est d'ailleurs une fausse question qu'on se pose, mais il a dit c'est pas vers ça qu'on s'oriente. Si c'est ça que vous cherchez, vous allez être déçus, et c'est peut-être un petit peu gérer les attentes des gens pour qu'ils soient pas déçus, justement. Mais
il est très intéressant à suivre sur Twitter parce qu'il dit des choses justement auxquelles on ne s'attend pas. Il n'est pas forcément toujours hyper positif sur son produit. Il parle aussi des inconvénients qu'il peut avoir et de ses limitations. Alors, je ne sais plus.
C'est Adam Altman, je crois.
Altman, si oui. Altman. Oui. À Altman, je suis sûr. Adam, je ne suis pas sûr.
Damned. Sam Altman.
Sam Altman, voilà, c'est ça, exactement. Sam Altman. Donc, Sam Altman, effectivement, écoute, je vais le suivre tout de suite. Je suis parmi les 1,2 million de personnes qui le suivent. Est-ce qu'il est sur Mastodon aussi? Peut-être pas. Je vais chercher également Sam Altman. Et non, il ne semble pas être sur Mastodon. Quelle honte. Bon, c'est pas grave.
La migration, la grande migration.
Oh, je ménage un petit truc. Vous savez quoi? On a aussi d'autres... problème qui a géré au niveau des IA et des robots. Est-ce que vous avez vu cette dernière démo de Boston Dynamics? C'est un petit peu l'équivalent d'OpenAI dans le domaine de la robotique. Ils font des robots, vous savez, c'est ce fameux robot qui marche, qui court, qui saute, etc. T'as vu la dernière, Siegfried?
Bien sûr que je l'ai vu, je suis un fan de Boston Dynamics. Après, alors c'est impressionnant, hein. le dernier flip qui fait...
Non, mais c'est pas ça le plus impressionnant, t'as pas vu la nouveauté?
Alors, tu parles duquel? Ses mains? Tu parles du
c'est
fait
ça,
comment il manipule, oui, comment il manipule les objets? Oui, tout à fait, oui. C'est incroyable. Après, c'est beaucoup scripté, hein. Faut voir que quand Boston Dynamics sort un truc, c'est hyper scripté. On n'est pas sur un robot qui va réagir à son environnement tout de suite. Ils font beaucoup de tests avant. D'ailleurs,
Ils fournissent les vidéos des bêtisiers. Hein.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on peut voir. Mais c'est impressionnant.
Mais donc, ce qu'il fait là, c'est qu'il a des mains et qu'il peut, à ma connaissance, c'était pas du tout aussi impressionnant, il a des mains avec des sortes de pinces et il peut attraper des trucs, il attrape des sacs, des outils, il les jette à son master. Ça commence, tu vois, les robots, maintenant, on leur file des mains pour nous étrangler.
J'ai hâte qu'ils soient croisés avec une intelligence artificielle et ça va être sympa.
On est mal barré.
Il y a une question intéressante d'ailleurs sur ChatGPT. Je suis très curieux de savoir si le programme a conscience de ce qu'il écrit. Parce qu'on dit c'est du... j'ai du son dans les oreilles. On dit c'est une sorte d'autocomplete, mais je me demande s'il a conscience de ce qu'il écrit, en ce sens que, est-ce qu'il sait de quoi il parle ou est-ce que c'est juste du texte qu'il vomit et puis il ne sait pas du tout quel est le sujet, quel est le...
Tu peux... tu peux lui parler d'un truc dont tu lui as parlé il y a 5 minutes et il a la référence, donc il doit quand même avoir
peut-être d'une certaine manière.
C'est la mémorisation, mais c'est pas conscience.
Je veux pas dire conscience, je veux dire informatiquement. Est-ce qu'il saurait, par exemple, si je lui dis est-ce que tu peux allumer mes lumières dans mon salon, est-ce qu'il va comprendre informatiquement que je lui demande d'utiliser un outil, savoir dans le vomi de texte qu'il a fait, qu'il parlait d'un outil spécifique, le connecter au réseau, au système, ou en gros, est-ce qu'il sait ce qu'il écrit ? Pas, en tout cas, encore une fois, pas conscience, mais qu'est-ce qu'il a une compréhension des éléments du texte, ou est-ce que c'est juste un texte qu'il a vomi et il se dit bon bah c'est le truc le plus cohérent que, enfin le plus probable qu'on me demande d'écrire, donc il ferait des arrangements de lettres au hasard, ça serait la même chose quoi. Bref, on verra, mais le jour où ça, il doit y avoir un petit peu de ça quand même, mais donc on peut connecter. Vous savez quoi ? Pas d'inquiétude. En fait, tout va bien. Il y a un article de Numérama qui est assez marrant où on nous révèle que l'armée américaine a essayé de tromper des IA militaires qui visaient justement à viser et à cibler les personnes dans des situations de combat. Et les militaires américains ont fait différents tests pour essayer de les tromper, et il se trouve que celui qui a le mieux marché, c'est... ça date un petit peu, hein, mais celui qui a le mieux marché, c'est d'utiliser la technique de... Metal Gear Solid, c'est-à-dire de se mettre un carton sur la tête et d'avancer discrètement, lentement, et du coup, dans ces conditions, l'IA ne réussissait pas à les trouver. Donc, peut-être qu'on s'inquiète un petit peu trop avec ces histoires d'IA. On se met un carton sur la tête, tout va bien. Donc, pas de problème, en fait.
Je trouve que c'est très illustratif, en fait, de la manière dont on présente ces sujets. C'est qu'on parle d'intelligence artificielle, déjà... Le terme, et ça a été dit et redit et redit, mais c'est qu'on a attribué cette étiquette intelligence artificielle sur des systèmes algorithmiques qui progressent, mais qui sont finalement très spécialisés. Et dès que tu les sors un peu du champ dans lequel ils sont très bons, eh ben ils sont perdus. ChatGPT, pour l'instant, ne sait pas gérer une image. Tu n'écris que du texte. Il ne sait pas gérer une vidéo. Alors, tu me diras, avec GPT-4, il y aura peut-être le multimodal.
Multimodal, c'est l'une des rumeurs qui serait multimodal. Il fait plein de choses différentes, pas que du
tout. Voilà, mais les robots tueurs, enfin les robots tireurs, là, les sentinelles automatiques, elles sont calibrées pour détecter une forme humaine. Mais voilà, bah, tu te déguises en arbre, tu te déguises dans un carton. dès que tu changes, je sais pas, tu changes de vêtements, tu te mets à ramper. Enfin, dès que tu présentes un comportement atypique par rapport aux paramètres d'entrée de la machine, eh ben, la machine elle est troublée en tout cas, ou alors elle est larguée.
J'ai une image qui m'est venue à l'esprit, des robots tueurs de Boston Dynamics qui seront en train d'avancer en rang serré, et tous les humains déguisés en arbres qui essayent de les prendre d'assaut discrètement. Ça ferait un bon film.
D'autres robots en face déguisés en carton Amazon.
Et voilà, exactement, parfait.
Oh, voilà.
Ouais, c'est pour ça qu'il faut préserver la puissance d'Amazon. On va avoir besoin de beaucoup de cartons dans les guerres à venir. Franchement, faut pas faire de bêtises. Merci Jeff Bezos et Andy Jassy. Bon, voilà pour notre partie intelligence artificielle qui a été un peu plus longue que je ne pensais. On va conclure avec Twitter. Tout à l'heure, je disais « It's AI time !» Maintenant, c'est un peu « It's Twitter time !» Il faut parler un petit peu de Twitter. Alors d'abord, les applications tierces, ils ont confirmé qu'effectivement, elles ne vont plus travailler, elles ne vont plus fonctionner. De la manière la plus sale qui soit, en mettant à jour leurs conditions d'utilisation, qui disent vous n'avez pas le droit d'utiliser d'utiliser notre API pour des applications tierces qui font les mêmes fonctionnalités que notre App Tutor. Et plusieurs, ça c'était 2 semaines après les avoir désactivés. Bref, super moche. Mais surtout, une nouvelle sur Donald Trump qui, semble-t-il, serait en train de ne pas renouveler son contrat d'exclusivité avec son propre réseau, Truth Social, qui a cours jusqu'à juin 2023. Il serait déjà en train de discuter avec ses amis du premier tweet qu'il devrait envoyer à son retour sur Twitter, donc en juin 2023, ce qui correspond plus ou moins au moment où les primaires républicaines vont commencer à chauffer un petit peu. Et dans le même temps, ils commencent à faire des mouvements et des demandes envers Facebook pour qu'ils lèvent leur interdiction d'utilisation aussi pour le président Donald Trump. Donc en gros, il est possible que, il est très probable, si ces rumeurs sont vérifiées, que Trump revienne sur Twitter en juin 2023. On verra ce que
c'est. C'est vraiment ce qui manquait pour améliorer le réseau, je pense.
C'est ça.
Alors, c'est vraiment, il gagne en qualité. Ça.
L'instigateur de l'insurrection du 6 janvier qui a voulu prendre d'assaut le Parlement américain, redonnons-lui sa place, il n'y a pas de raison, effectivement. Redonnons-lui son mégaphone.
Ouais, ça laisse en voix.
C'était la minute Twitter, on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus.
J'espère juste qu'ils ne vont pas virer TweetDeck, parce que c'est la dernière solution valable encore, même si ça a été racheté par Twitter il y a longtemps. Mais...
J'utilise l'application par défaut de Twitter et le site de base de Twitter. Donc, je suis un peu...
Je suis sur TweetDeck depuis tellement longtemps que quand je reviens sur le truc de base de Twitter, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal.
Bon, peut-être qu'ils feront une application TweetDeck, tu vois, une power user application. Il te suffira juste de payer les $8 à Elon Musk. Comme ça, tu
iras. Oui, ben voilà. Mais pour l'instant, TweetDeck n'est pas trop pollué par la pub, j'ai l'impression. En tout cas, je n'en vois pas passer. Donc, je ne sais pas si c'est juste moi ou...
Alors, vu le mouvement général depuis quelques mois...
Oui, ça n'a pas duré longtemps. Hein.
Bah non, c'est pas ça. Ils n'ont pas beaucoup de pubs à mettre sur TweetDeck.
Oui, aussi.
Les derniers chiffres parlent de le trafic venant de Twitter a chuté de 12% pour la plupart des... Pour 12 sites de news principaux entre novembre et décembre 2022. 12%. Les seuls pour lesquels ça a augmenté, c'est le New York Post et Fox News, qui sont des publications, on parle même plus de publications partisanes, mais qui sont des sortes de parodies de sites de news qui font de la propagande pour l'extrême du Parti républicain. En grande partie, il n'y a pas que ça, mais... Je crois qu'on a passé un épisode dans l'ensemble sympathique, intéressant, peut-être même drôle parfois, même si la
et
fin
enregistré.
On a été. Et alors, à enregistrer, je ne sais pas, on va voir. Si vous écoutez ça en podcast aujourd'hui, oui, mais enregistré à Minimal Twitter Extension, une extension peut-être Chrome qu'on me recommande. Sur le chat de Twitch. Merci Flexbox. J'irai regarder ça. Minimal Twitter, peut-être. Et donc, le suspense, est-ce que ça va être enregistré ou pas ? On va avoir la réponse dans un instant, mais avant ça, Siegfried, pour le cas où on a effectivement réussi à enregistrer l'épisode, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Mais tout à fait, sur Twitter principalement, je ne suis pas encore sur Mastodon non plus, Captain Web, tout simplement, et puis sur toutes les applis de podcast, Apéro du Captain, voilà.
Très bien.
Et le jeudi dans le journal du hardware sur le stream.
Tout à fait.
Donc ça dure.
Mais dis-moi, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est que l'Apéro du Captain quand même ? Parce qu'on en parle souvent, mais...
C'est un podcast tech et divers, voilà.
Est-ce que c'est pas de la publicité mensongère, ça, quand même, un petit peu ?
C'est un peu de la publicité mensongère. On fait du divertissement à base de technologie, on va dire ça, voilà. Préparez-vous au pire.
Préparez-vous au pire et forcément, donc, au meilleur.
Voilà, vous aussi.
Julien, dis-moi, où es-tu sur Internet ?
Alors, sur Internet, je suis, vous me retrouverez essentiellement sur numerama.com, sur les sujets politiques, juridiques et de temps en temps spatiaux. Également sur Twitter, avec le pseudo FoxTe, F-O-X-T-E-H. J'ai choisi de faire simple. Et depuis quelques semaines, avec l'équipe de Numerama, on s'est lancé sur Twitch. Donc, de temps en temps, si vous passez une tête sur twitch.tv/Numerama, vous verrez soit ma bouille, soit une bouille d'un de mes collègues. Voilà.
twitch.tv/Numerama. Je vais, de ce pas... suivre la chaîne. Merci
Bien,
à tous.
Merci.
Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout, vous le savez. Sur Mastodon notamment, c'est, disons que je prépare pour le cas où, hein, vous pouvez vous aussi vous créer un petit compte sur Mastodon, n'importe quelle instance, c'est comme le mail. Si vous savez trouver un fournisseur de mail, bah vous saurez trouver un fournisseur d'instance Mastodon, vous créez un compte, peu importe où, et vous pouvez suivre notepatrick@mastodon.social. Et d'ailleurs, si vous cherchez Note Patrick, je pense que ça devrait simplement vous le trouver assez facilement. Et à côté de ça, il y a aussi Twitch. Twitch, où on stream tous les mardis midi et tous les jeudis midi, et de temps en temps, le mercredi midi aussi. Quand mes enfants sont malades, c'est peut-être un peu moins certain. Vous me retrouverez aussi sur le Discord, où on passe de bons moments tous ensemble. On discute de sujets intéressants, parfois difficile, mais que je prends toujours à cœur. Et il y a aussi des sujets, il y a plein de channels, en particulier pour les Patriotes, plein de channels sur plein de sujets différents aussi, rien à voir avec tech ou gaming. Hein. Et puis, bah justement, je parle de Patriotes, vous voudriez peut-être soutenir cette émission que vous appréciez, j'espère, patreon.com/rdvtech, pour avoir plein de trucs sympathiques, les émissions sans pub, une newsletter étendue, etc., etc. Et pour tout ça, bah, soit vous avez les liens dans les notes de l'émission, hein, tout simplement, tout marche très bien directement sur votre téléphone, y compris le soutien sur Patreon, vous pouvez vous créer un compte tout de suite depuis votre téléphone, ou alors, quand vous allez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, ou que ça fait glou-glou avec la machine à café. J'en parlais dans la partie Patreon, que les Patriotes n'auront pas, parce que je dis, il n'y a pas de pub dans la partie, dans le flux privé des Patriotes. Il n'y a pas non plus la partie où je rabâche les oreilles des gens avec Patreon au milieu de l'émission. Donc, émission de qualité forcément supérieure. Nécessité, machin, tout ça. Et donc, vous pouvez faire tout ça depuis votre téléphone, y compris rejoindre le Discord, regarder sur Twitch, etc., etc. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça continue avec la newsletter. Vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com et tous les liens y sont également. Notepatrick.com, c'est facile à retenir. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des grosses bises et à très bientôt. Ciao, ciao.